Le torchon brûle entre Paris et Alger à la suite de l'affaire de l'expulsion ratée d'un influenceur. Le ministère algérien des Affaires étrangères a justifié son choix de refuser l'entrée sur son territoire de l'influenceur Boualem. Une cinquantaine de personnes s'est retrouvée hier matin à Boulou-Paris pour commémorer les 40 ans de l'assassinat d'Yves Tuel. C'était le 11 janvier 1985. Plus de peur que de mal pour un homme à bord d'un navire qui était tombé à la mer vendredi soir. Après avoir nagé 2h30 entre le phare Amédée et Nouméa, il a été retrouvé sain et sauf. Les obsèques de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, a été inhumé dans le caveau où reposent ses parents à la Trinité-sur-Mer en Bretagne. À Mayotte, de nouveau menacée par un cyclone, l'alerte rouge cyclonique a été déclenchée. La population se prépare au passage de la tempête tropicale dès qu'il est dit. Le sport et le football, suite de la 17e journée du championnat de France de Ligue 1, Lyon a manqué une bonne occasion de se rapprocher du podium. Les Lyonnais sont inclinés 2-1 à Brest. Et puis le rugby et la 3e journée de la Champions Cup. Toulouse s'impose sur la pelouse des Sud-Africains des Sharks. L'Union Bordeaux-Bègles cartonne et s'impose 69-17 sur la pelouse d'Exeter. Et soyez les bienvenus dans ce journal à la une de l'actualité ce matin. L'affaire des influenceurs algériens qui se poursuit et l'escalade diplomatique entre la France et l'Algérie qui se poursuit également. Le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué cette nuit pour nous. Communiqué dans lequel le ministère justifie le fait d'avoir refusé l'entrée sur son territoire de l'influenceur Boualem qui avait été expulsé de France. Antoine Garveau pour Europe 1.
Dans son communiqué, Alger dénonce, je cite, une expulsion arbitraire et abusive de l'influenceur Boualem arrêté à Montpellier pour plusieurs vidéos d'appel à la violence. Le pouvoir algérien présente le suspect comme un homme socialement intégré, vivant en France depuis 36 ans pour justifier son refus de le reprendre sur son sol. Le communiqué évoque aussi la situation judiciaire de l'influenceur en estimant que son ordre d'expulsion, s'il avait été poussé à son terme, l'aurait privé de défendre ses droits lors de son procès prévu en France le 24 février. Un argument malhonnête selon le géopolitologue Alexandre Delval.
On voit bien qu'il y a une véritable volonté de provoquer parce que le communiqué fait également allusion au fait qu'il y aurait un procès, que le ressortissant algérien n'aurait pas eu le temps de se préparer à ce procès, il aurait été expulsé trop tôt, alors qu'en fait, s'il est expulsé, il va échapper au procès. Là, il y a aussi une sorte de provocation, c'est presque ironique.
Les Algériens réfutent par ailleurs toute tentative d'humiliation ou d'escalade avec Paris. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à parler d'une campagne de désinformation menée par l'extrême droite française, un terme qui choque Alexandre Delval.
Il n'y a pas plus nationaliste que l'Algérie. Tous les Algériens avec qui je parle sont très fiers que leur pays soit très nationaliste, que l'hymne national, le drapeau à tout bout de champ, l'expulsion de clandestins étrangers, le refus de toute ingérence. Donc là aussi, ça ressemble beaucoup à l'accuseur accusé.
Les Algériens dénoncent enfin une campagne haineuse menée à l'encontre de l'Algérie par une partie de la classe politique française. Un communiqué corrosif qui tend donc ce soir encore un petit peu plus les relations entre Paris et Alger.
Antoine Garveau du service international d'Europe 1 a noté qu'une influenceuse franco-algérienne sera jugée le 18 mars prochain devant le tribunal correctionnel de Lyon. La jeune femme a été présentée au parquet pour avoir tenu des propos haineux et surtout pour avoir menacé de mort plusieurs personnes sur le réseau social TikTok. Elle a une en Calédonie, cérémonie très forte en émotion. C'était hier matin à Boulou-Paris. Une cinquantaine de personnes s'est retrouvée pour commémorer les 40 ans de l'assassinat d'Yves Tuel. C'était le 11 janvier 1985, alors que la Calédonie traversait ce que l'on appelle les événements. Cérémonie particulière cette année, dans le centre du village, sur une petite place qui porte désormais le nom d'Yves Tuel. Une plaque portant le nom de cet enfant de la commune a en effet été dévoilée par Hervé, le papa d'Yves Tuel, et le maire de la commune, Pascal Vittori, que vous avez pu entendre dans nos précédentes éditions. Parmi les personnes présentes hier matin à Boulou-Paris, la famille, parents et alliés d'Yves Tuel, mais aussi donc plusieurs représentants politiques, le député Nicolas Metzdorf, que vous avez entendu dans notre édition de 17h45 hier, mais aussi Gilles Briel pour la province sud.
Dans le monde, tout le monde se rappelle où il était le 11 septembre 2001, quand il y a eu les attaques à New York. En Nouvelle-Calédonie, tout le monde se rappelle où il était quand on a appris la mort de Yves Tuel. Je me rappelle le regard de mon père à Nouméa, qui était un regard d'inquiétude dans les semaines qui précédaient et qui, ce jour-là, est devenu un regard noir. Dans les jours qui ont suivi le 13 mai, j'ai retrouvé ce regard de colère dans les amis qui avaient perdu leur entreprise, le fruit d'années de travail, qui avaient perdu leur emploi et qui se disaient, est-ce qu'ils ont vraiment envie de vivre avec nous ? Parce qu'on est calédonien, parce qu'on est résilient, parce qu'on aime cette terre et qu'elle nous ait vu naître ou qu'elle nous ait adoptée. Et parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on le doit à nos enfants, parce qu'on le doit à Yves Tuel, On trouvera une solution. Et il faut garder espoir, et c'est le travail dans lequel on va s'engager. Et pour lui, on se battra.
On présente également Virginie Rufnak pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Virginie Rufnak qui a salué le courage de la famille Tuelle et qui a, elle aussi, fait un parallèle entre le 11 janvier 1985 et les émeutes débutées le 13 mai dernier.
C'est à vous, Yvette et Hervé, que je veux m'adresser aujourd'hui pour saluer votre très grande dignité dans cette épreuve terrible et vous dire que finalement l'histoire de votre famille est définitivement scellée à celle de la Nouvelle-Calédonie. J'imagine aussi votre effroi en mai 2024, lorsque vous avez vu à nouveau cette violence s'abattre sur la Nouvelle-Calédonie, avec, je l'imagine aussi, ce sentiment terrible et affreux que la mort d'Yves aurait pu être vaine. Nous ne trahirons pas Yves, dont le départ tragique doit rester dans toutes les mémoires calédoniennes. Plus que jamais, nous devons croire en nous et en notre avenir, sans naïveté, mais avec réalisme. Je voudrais vous transmettre une note d'espoir. C'est avec la détermination et l'esprit pionnier qui nous anime que nous devons croire à notre avenir.
Autre personnalité politique à avoir pris la parole hier matin, Alcide Ponga, le président du gouvernement, qui s'exprimait pour la toute première fois officiellement en public depuis son élection il y a quelques jours.
Alors que nous nous souvenons de ces événements tragiques, nous devons réaffirmer notre engagement collectif à ne plus jamais reproduire de telles violences. Notre diversité doit être notre force et non pas notre faiblesse. C'est seulement ainsi que nous pourrons honorer la mémoire de toutes ces victimes et bâtir une Nouvelle-Calédonie unie et prospère. Je tiens à rendre hommage à Pierre Frogier qui a initié ce moment de recueillement il y a plusieurs années de cela. Son engagement pour la paix et la réconciliation a ouvert la voie à ce dialogue essentiel entre nos communautés. En ce jour solennel, prenons ensemble l'engagement de faire vivre la mémoire d'Yves et de toutes ses victimes, non pas comme un symbole de division, mais comme un appel à l'unité.
La place Yves Tuelle a donc été inaugurée hier matin. Elle se trouve non loin de la mairie de Boulou-Paris, en bordure de la RT1. Il est 7h08, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, c'est la suite de l'actualité en Calédonie.
Jusqu'au vendredi 7 février, gagnez un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offerts par l'hôtel de Poé ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Toute l'année, l'hôtel de Poé vous accueille dans une ambiance conviviale et familiale et Cap ULM vous fait survoler le lagon de Poé et le cœur de vous. Toutes les actus sur la page Facebook de l'hôtel. Profitez d'un séjour reposant et sportif à l'hôtel de Poé. Un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Tirage au sort vendredi 7 février à 14h. 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Week-end, Lionel Sabou.
Et cette grosse frayeur pour un naufragé vendredi soir dans le lagon. Un homme d'une soixantaine d'années a chuté du navire de plaisance sur lequel il se trouvait entre le phare Amédée et Nouméa. Le COSNC a immédiatement coordonné les secours pour rechercher cet homme. Fort heureusement, il a pu être retrouvé vers 22h15 par l'équipage de la vedette Nautil de la SNSM, la Société Nationale du Secours en Mer. Jean-Philippe Volmer est le patron de la vedette Nautil.
Un homme à la mer qui était tombé d'un navire qui faisait route du phare Amédée jusqu'à son port d'attache très rapidement. Les recherches ont commencé avec un équipage qui est formé et aguerri à ce genre de situation. La Nautil a rejoint un dispositif déjà bien en place qui était composé de beaucoup de navires sur zone. Les recherches sont avérées fructueuses après avoir débuté ce qu'on appelle les patentes de recherche puisqu'on a pu détecter l'homme qui s'est tombé à la mer du fait d'une vigilance accrue et d'une veille auditive et visuel sur le plan d'eau. Une fois au contact de la victime, on a pu effectuer des manœuvres de recueil de naufragés à bord de Nautil et on l'a pris en charge sur le plan médical pour faire un bilan. On s'est aperçu que la victime était en hypothermie légère, qui nécessitait une coordination avec les équipes du SAMU. Et on a pu remettre la victime, une fois checkée, à sa famille en bonne forme. C'était surtout un soulagement, puisque ça faisait 2h30 qu'il était dans l'eau, à essayer de rejoindre un point à proximité de son lieu de chute à la mer. C'est une opération qui est assez exceptionnelle, parce que, de mémoire de sauveteur, on est souvent engagé sur des opérations de phare. Et rares sont les opérations qui ont un dénouement aussi heureux. Et c'est le sens de l'engagement de tous nos bénévoles. C'est effectivement pour nous une très belle récompense que d'avoir pu sauver une vie humaine la nuit dernière.
Et dès le déclenchement de l'alerte, un important dispositif avait été déployé avec plusieurs navires qui avaient quadrillé le secteur pour retrouver le naufragé, moyen coordonné par le COSENC. Une intervention dans un tout autre domaine, cette fois au Mont Cogui. C'était hier après-midi, une famille de 5 personnes s'est perdue sur le site et a fait appel aux secouristes. Une patrouille de gendarmes s'est rendue sur zone en activant un dispositif de géolocalisation pour retrouver les randonneurs. Ils ont pu être retrouvés sans problème. C'est aujourd'hui le retour du célèbre marché de Mamie à Farino, l'événement phare de la commune de la côte ouest, toujours très prisé des touristes et pour le plus grand plaisir des producteurs locaux et des artisans qui profitent de ce coup de projecteur mensuel sur l'esplanade de la mairie. Les étals devraient être fournis, nous a dit Ghislaine Arly, la responsable du marché de Mamie.
Comme il a plu, la saison n'a pas arrêté, il y a quand même encore pas mal de légumes, pas mal de produits de saison, il y a des mangues, il y aura un peu de tout, hein. Il y aura encore de l'artisanat, on a un peu de tout, il y aura bien sûr des légumes, des produits vivriers, encore toujours du miel et de la vanille sur Farino, et puis voilà, disons, on va dire des produits habituels, quoi. Nous avons des stands un peu de partout, on n'a pas des stands que de la région, hein. Donc on a quand même une bonne diversité de produits, on trouve toujours de quoi faire ces petits achats et trouver des produits originaux.
Et le marché de Mamie, premier de l'année, c'est donc jusqu'à midi sur l'esplanade de la mairie de Farino. Un beau succès hier pour la 25e édition de la fête Welchila 3000, célébrée à Alifou. La fête qui est normalement se déroule sur 3 jours, était réduite cette année, mais le programme tout aussi animé, la matinée était consacrée au partage et aux rencontres. Plusieurs représentants des institutions étaient présents, ainsi que le général Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Après un repas partagé, l'après-midi était plus festif et a rassemblé des touristes comme des habitants de l'île. Satisfaction des organisateurs, Ruben Warouillet est membre du comité d'animation de la fête.
Le public a répondu présent, assez nombreux quand même. Pour une petite journée, le public a pu suivre les belles prestations produites par les troupes de danse. On est satisfait de la petite journée que l'on a organisée. Le but, c'était de rassembler déjà la population de la tribu, de nos deux tribus, mais aussi de faire en sorte que ceux qui viennent passer avec nous la journée puissent passer une belle journée ici. On a eu un bon retour et on espère que l'année prochaine, on pourra retourner au même format, mais avec de nouvelles choses.
Et vous l'avez entendu, le rendez-vous est déjà donné donc pour une 26e édition l'an prochain. Retour à l'actualité en métropole avec les obsèques de Jean-Marie Le Pen la nuit dernière pour nous à la Trinité-sur-Mer. Un important dispositif policier avait été déployé pour éviter tout incident. Le fondateur du Front National, devenu Rassemblement National, a été inhumé dans le caveau où reposent ses parents dans le cimetière situé tout près de l'église de la Trinité-sur-Mer. Guillaume Dominguez pour Europe 1.
Elle a débuté avec l'arrivée du cercueil de Jean-Marie Le Pen en l'église Saint-Joseph de la Trinité-sur-Mer, suivi quelques minutes plus tard par une partie de la famille proche à pied. Marine Le Pen est apparue le visage fermé au bras de sa sœur Marie-Caroline. Un cortège uniquement accompagné du son des cloches de l'église. Les quelques 200 personnes présentes derrière les barrières destinées au public ont suivi des yeux la procession dans le plus grand silence. C'est au bout de près de 2 heures de cérémonie dans une église strictement interdite à la presse et au public que le cercueil de Jean-Marie Le Pen est sorti de l'édifice au son des cornemuses, comme le veut la tradition bretonne. Le corbillard, précédé d'une procession religieuse, est suivi à pied par la famille. Au complet, quelques 300 personnes a ensuite pris la direction du cimetière et s'est encadré d'une haie d'honneur formée par d'anciens combattants de la Légion étrangère que le fondateur du Front National a rejoint son ultime demeure, vous le disiez, le caveau familial des Le Pen où sont enterrés ses parents et grands-parents.
Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 à la Trinité-sur-Mer. Ajoutons qu'une autre cérémonie aura lieu jeudi prochain à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris. Une messe qui sera ouverte au public. En bref, cet accident entre deux tramways à Strasbourg il y a quelques heures. Les deux véhicules sont entrés en collision à la suite d'une erreur d'aiguillage. Le bilan fait état d'une trentaine de blessés. Dans les Outre-mer, on reparle de Mayotte, de nouveau menacée par un cyclone. L'alerte rouge cyclonique a été déclenchée sur l'île il y a un peu plus d'une heure, maintenant à 6 heures, heure de Nouméa. Un peu plus d'un mois après le passage du cyclone Chido, la population se prépare donc au passage d'une tempête tropicale baptisée Dikiledi. Patrick Marlière est météorologue au Centre Météo France de Mayotte.
Ce nouveau cyclone est attendu effectivement pour cette journée de dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi sur Mayotte. On attend effectivement des rafales de vent qui pourraient atteindre jusqu'à 100 à 110 km à l'heure. C'est deux fois moins que le cyclone précédent, mais compte tenu des dégâts que l'on observe encore sur l'île, évidemment tout ce qui traîne sur l'ensemble de l'île pourrait être transformé en projectile. Et puis l'autre phénomène, c'est que ça va donner des pluies extrêmement importantes. On attend plus de 150 voire 200 litres par mètre carré, donc ce sont des pluies torrentielles qui vont entraîner tout ce qui traîne, les arbres, les dégâts de la tempête précédente. Donc là, il n'y a pas d'hésitation, il faut être extrêmement vigilant.
Patrick Marlier, météorologue au Centre Météo France de Mayotte. Mayotte qui a donc été placée, je vous le rappelle, en alerte cyclonique rouge depuis 6 heures, heure de Nouméa. L'actualité dans la région Pacifique à présent, au Vanuatu, des élections générales auront lieu en milieu de semaine prochaine pour renouveler le Parlement que le président de la République a dissous fin novembre, sur recommandation du Premier ministre Charles Salouaï. Correspondance, Jean-Pierre Zajac.
217 candidats vont briguer les 52 sièges à pourvoir dans la nouvelle Assemblée. Tout comme lors des précédentes élections, les formations politiques dominantes sont le Vanuatu Party, l'UPM, ou Union des partis modérés, le Parti des chefs, le Mouvement de réunification pour le changement, le parti Terre et Justice et le parti du développement rural. Foule de candidats dits indépendants ou sans étiquette se sont également mis en lice, tout comme le sont les anciens premiers ministres Mona Carcasses, Bob Lauman, Ismaël Kalsakao et bien entendu le chef du gouvernement sortant Charles Salouaï. La campagne électorale prendra fin le 13 janvier à minuit et l'ouverture des bureaux de vote est toujours prévue pour le 16 au matin. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 7h18, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo de votre dimanche.
Ah, ces assurances! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, retrouvez toute la magie du groupe Pink Floyd le temps d'une soirée unique. Another Pink Experience met un point d'honneur à interpréter fidèlement les immenses compositions telles que Dark Side of the Moon, Comfortably Numb, Wish You Were There, The Wall et bien d'autres encore. 8 musiciens, chanteurs et chanteuses pour offrir aux fans inconditionnels de Pink Floyd l'occasion de revivre durant 2 heures leur univers musical. Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Billetterie sur ticket.nc. Pré-vente 2600 francs, sur place 3000 francs.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Lionel Sabot.
Et à la une de l'actu sportive du football avec la 17e journée du championnat de France de Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais qui tombe sur la pelouse de Brest, c'est ballot.
Une défaite de 2-1 chez les Bretons et l'OL qui rechute alors que Lyon avait l'opportunité de se rapprocher du podium. Les Lyonnais ont encaissé 2 buts dès la première demi-heure de jeu et ils n'ont pu que réduire le score avant la pause sans jamais parvenir à égaliser par la suite. Pierre Sage, le coach de Lyon, s'inquiète de l'état d'esprit de son effectif et des éventuels départs.
Les joueurs qui sont aujourd'hui dans une réflexion ou avec lesquels il y a des discussions avec d'autres clubs, effectivement, je le prends en compte, mais j'estime pas qu'ils aient une attitude mauvaise par rapport à l'équipe, donc voilà, ça va. C'est pas eux qui nous font perdre le match ce soir et on se cachera pas derrière cette excuse.
Brest qui est désormais 10e du classement alors que Lyon recule à la 6e position. Autre résultat du jour est l'OGC Nice qui s'est imposé sur la pelouse de Reims 4-2. Les Niçois sont 4e du championnat de France. Un dernier dernier match est en cours aujourd'hui. Rennes qui accueille l'Olympique de Marseille. L'OM toujours deuxième de la Ligue 1. Le score est 2-0 après 12 minutes de jeu.
Et sur les terrains de rugby à présent, Mickaël, la suite de la troisième journée de la Champions Cup et le Stade Toulousain qui a tenu son rang chez les Sharks sud-africains.
Oui, le choc a tourné court. Même au pays des Springboks, Toulouse s'est montré intraitable avec un large succès 20-8. Toutefois, les Toulousains ont commis des erreurs qui les ont privés du bonus offensif. Dans le même temps, également pour le compte de la poule A, l'Union Bordeaux-Bègles est allée décrocher une large victoire chez les Anglais d'Exeter, 69-17. Conséquence, c'est l'UBB qui prend la tête de cette poule. Autre club français engagé aujourd'hui, le Stade français qui a battu les Anglais de Northampton, pourtant leader de la poule C, sur le score de 45-35. Et puis en ce moment même, Castres accueille les Sud-Africains des Blue Bulls.
Et quelques mots de sport d'hiver, on va parler biathlon avec encore une victoire française lors de l'étape de Coupe du Monde à Oberhof.
Ouais, sur la poursuite féminine, c'est Lou Jean Monod qui s'est imposé sur les pistes allemandes pour continuer sur le bel élan des tricolores. Ils ont signé une victoire à chaque journée de compétition à Oberhof. En revanche, pas de podium chez les messieurs aujourd'hui. Derrière le triplé norvégien, Quentin Fillon-Maillet s'est classé quatrième. Et puis, en ski alpin, Clément Noël a quant à lui remporté le slalom d'Adelboden lors de l'étape de la Coupe du Monde en Suisse. C'est son troisième succès depuis le début de la saison.
Les sports mécaniques, le Dakar 2025 avec les pilotes qui disputaient la sixième étape.
Ouais, deuxième semaine de course qui commence sur les pistes d'Arabie Saoudite. Et dans la catégorie moto, le Français Adrien Van Beveren, vainqueur de l'étape avant la journée de repos, a réussi à limiter la casse aujourd'hui au guidon de sa Honda en tant qu'ouvreur, puisqu'il a terminé deuxième juste derrière l'Américain Ricky Brabec. Une belle performance pour le Français.
La grosse journée, top, super boulot, navigation de fou, tout seul toute la journée. Luciano, il m'a pris à là, 5 km de l'arrivée dans les dunes. J'essaie d'assurer la bonne nave, les trouver les pistes, les caps. C'était pas évident, mais ouais, c'était bien.
Adrien Van Beveren qui se retrouve troisième du classement général moto derrière l'Australien Daniel Sunder sur KTM et Ricky Brabec également sur Honda. Dans la catégorie auto maintenant, c'est le Belge Guillaume de Mevius sur Mini qui a remporté cette sixième étape devant son coéquipier portugais João Ferreira. Le Sud-Africain Henk Lategan sur Toyota est toujours leader du classement général.
On voit le suspense diminue d'heure en heure pour le final du Vendée Globe. Le duo de tête approche de la ligne d'arrivée.
Charlie Dalin sur Massif, toujours leader de la course, même si son premier poursuivant, Johan Richom, dans son sillage, tente de réduire l'écart pour les derniers jours d'épreuve. Ils ont passé les Açores, ils mettent donc le cap sur les Sables d'Olonne. Dalin n'est plus qu'à 900 000 nautiques de la ligne d'arrivée, soit quelques 1600 km. Et Richom compte encore 240 km de retard sur l'homme de tête. Nous en sommes à 62 jours et 7 heures de course.
Enfin, l'actualité sportive dans la région, c'est du tennis avec aujourd'hui le début de l'Open d'Australie à Melbourne.
La première journée du premier tour, du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Et des Français à suivre donc dès ce dimanche en Australie. On va commencer par le tableau féminin avec Diane Paris qui entrera en lice cet après-midi face à la Croate Donna Vekic. De son côté, Chloé Paquet retrouvera l'Espagnole Cristina Buxa. En début de semaine, on suivra encore Léolia Jean-Jean, Varvara Gracheva ou encore Caroline Garcia qui sera opposée d'entrée de jeu à la Japonaise Naomi Osaka. Toujours chez les dames, côté tête de série, il y aura une belle affiche ce soir entre la Bélarusse Arina Sabalenka et l'Américaine Sloane Stephens. Chez les messieurs maintenant, ils seront 5 tricolores sur les cours ce dimanche, si le programme est respecté bien sûr. Et Hugo Gaston qui ouvrira le bal ce matin dès 11h. Il fera face à l'Australien Omar Jassica. Peu de temps après, on retrouvera Arthur Fils contre le Finlandais Otto Virtanen. Cet après-midi, pas avant 13h, Quentin Alice fera lui face à un local, Adam Welton. En fin de journée, Hugo Humbert affrontera l'Italien Matteo Gigante. Ce soir, pour le vétéran Lucas Pouille, ce sera tout de suite un gros morceau, l'Allemand Alexander Zverev. Ce lundi, on retrouvera encore Arthur Hinderknecht, Alexandre Muller, Arthur Cazot, Adrien Manarino, Benjamin Bonzi. Mardi, un choc hein, entre Français et entre générations. Gaël Monfils, 38 ans, vainqueur, on le rappelle, hier de la finale de l'ATP 250 d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Et le jeune Giovanni Mpetsch-Péricard, 21 ans, la relève. Autre Français encore en lice sur les cours de Melbourne, Corentin Moutet qui ne devrait pas jouer avant mardi soir.
Heureusement qu'ils ne sont pas 250 les Français.
On verra en deuxième semaine.
On y serait encore. Allez, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagé.
Allez, les couleurs du ciel pour les 6 prochains mois, c'est avec vous Nicolas.
Allons-y. Alors ce matin, sur le nord de la côte Est et les Loyautés, le ciel restera souvent nuageux avec parfois une averse. Sur les autres régions, le temps restera ensoleillé. Le vent d'est-sud-est oscillera entre 5 et 10 nœuds. Sur l'ouest, des brises de sud à sud-est s'établiront entre 5 et 10 nœuds en fin de matinée. Cet après-midi, des averses intéresseront le nord-est, la pointe nord et le nord de la chaîne. Ailleurs, le temps sera bien ensoleillé. Sur le nord-ouest, le vent de sud-est se renforcera autour de 15 nœuds. Ailleurs, il restera compris entre 5 et 10 nœuds. Les températures maximales seront en légère hausse avec 28 à 31 degrés, voire 32 degrés. Ce sera sur l'ouest, Lionel.
Merci Nicolas, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve à 8h pour un nouveau point sur l'actualité. Bon dimanche, belle matinée, à tout à l'heure.